Nous recevons ce midi une artiste baroque et exubérante, une cantatrice d'opérette, une musicienne, un mix détonnant entre Jacqueline Maillan et la Castafiore, celle qui est aussi animatrice de télévision. Ce midi, Marianne James est notre invitée.
11h30, Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Marianne James.
Coucou, ma petite marmotte, ça va? Il paraît que ça marche bien pour vous ici, hein?
Bah oui. Elle est mentaliste aussi, Marianne James. Marianne James, vous êtes née à Montélimar dans une famille de pâtissiers chocolatiers, mais quel enfer, Montélimar, la capitale du nougat et des dentistes.
Oui, et après mon père a été nougatier à Montélimar. Wow. Après il a lâché l'atelier de pâtisserie et il a pris une usine de nougat où il faisait des calissons, des nougats et plein de choses qui sont tellement bonnes pour la ligne.
Et vous avez testé tout ça ?
J'ai testé tout ça.
Très jeune, Marianne James, vous tournez vers la musique, notamment vers le jazz. Et jeune provinciale, vous montez à Paris, suivez vos études de musique à la Sorbonne et au conservatoire, vous sortez avec un premier prix de chant.
Oui, le Conservatoire International de Musique de Paris de chant, ouais. Je l'ai eu en 2 ans, oui. Fallait l'avoir déjà, celui-là.
Bah oui, c'est très très difficile, ça.
Oui, c'est très difficile, mais j'étais déterminée.
Vous vouliez être cantatrice, en fait.
Oui, je voulais être cantatrice. Moi, quand j'étais petite, sur les murs, il y avait vraiment
Maria Callas,
ouais. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Tana Marie, enfin, vraiment des femmes, avant le régime, mais, ou avant Ducamp, quoi.
Mais maintenant, vous dites, en fait, que vous n'auriez pas une aussi belle vie si vous aviez été cantatrice dans le lyrique.
Ben, très très rapidement, je me suis aperçue avec les auditions que, je vais être honnête avec vous, je n'avais pas le niveau. J'avais une très très jolie voix, mais peut-être que je n'étais pas assidue à cette technique vocale que j'aurais dû avoir. Et surtout, j'avais affaire à des gens qui... Il n'y avait ni bienveillance, ni gentillesse, ni vraiment écoute. Et je l'ai senti très tôt, quoi. 22, 23 ans, 24 ans, les premières auditions, j'ai dit, je veux pas aller dans ce milieu de requins, de crabes, d'orties, d'araignées velues là-bas. J'avais une image de ce milieu qui était tellement old school, enfin, avec le bâton, la clochette. Et les auditions, c'était à la clochette, hein. Ouais. Tu arrivais, 9h du matin, salle Playel, audition. Je vous la fais. Alors, Dein blaues Auge, ding 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 ding. Terminé. Et on te fout dehors, c'est fini.
Même pas quelques secondes.
Mais même pas quelques secondes. Et toi, tu t'es mis la rate au courbouillon, le mot est fait.
Tu t'es maquillé, coiffé, tout ça.
Mais vraiment, t'es dans le truc, c'est romantique, la musique romantique allemande et tout. Du coup, ça a donné Ulrika, dont on va parler dans pas longtemps, Ulrika von Glott. À force de me faire retoquer comme ça et d'avoir appris l'italien, l'anglais, l'allemand, le russe à chanter, tout ça, je dis, ok, moi ça vous convient pas, mais ce que je vais vous créer là, je vais vous préparer une bestiole, un super tank, un porte-avions, une allemande fasciste, une emmerdeuse, une empêcheuse de tourner en rond, je vais vous écraser tous. Il y avait une telle revanche à l'attaque, droit devant.
Est-ce que
quoi.
Ces gens du lyrique sont venus voir votre spectacle?
Oui, ils y sont venus.
Ultima Recital.
Ils y sont venus, ouais.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Bah, certains ont détesté et d'autres ont adoré en disant quelle liberté, quoi. Quelle liberté. Et le mot, tout est dit.
Marianne, j'ai lu dans votre biographie que vous avez eu 4 hommes qui vous ont aimé totalement,
oui.
Entièrement.
Oui, et que j'ai aimé totalement, oui. 4. Ouais. Il y a eu 4 grands amoureux, oui.
Ouais. Et en ce moment?
Non.
En ce moment, non?
Non.
C'est-à-dire rien?
Oh mince, j'en ai un, mais je vous promets. Oh voilà.
Pas grave, on reprend. Alors
Bertrand,
on reprend.
Non, on reprend pas, non. Mais oui, je t'aime, Bertrand, je t'aime.
Bah alors, pourquoi vous dites non?
Parce qu'on aimerait que ça soit secret, mais chaque fois, je finis par en parler.
Bertrand. Ah, donc vous avez un amoureux, là.
Oui, j'ai un amoureux, oui. J'ai un amoureux, oui. C'est chouette, hein, d'avoir un amoureux.
C'est ça.
Et vous êtes amoureuse, parce que quand vous dites Bertrand, vous avez les yeux qui brillent. Ouais.
Bah parce qu'il est formidable. Déjà, il m'aime, c'est énorme.
Vous êtes une amoureuse, on imagine, truculente.
Oui,
oui.
Bien sûr.
Au lit,
sûr.
Vous êtes un volcan, Marianne James.
Alors, ça dépend à quelle heure, mais il y a des moments où... Il y a des moments, c'est une allumette qui s'éteint. Non, ça dépend.
Une espèce de sensualité à fleur de peau qui émane de vous.
Alors, je vais juste dire une chose. Mes spectacles, ou le chant, la pratique du chant quand même, du grand chant, hein, jazz ou lyrique, même s'il est ce qu'il est pour moi maintenant... me complaisent énormément. Déjà, je suis pas en retard d'expressions comme des ah oh, tu vois, c'est tous ces trucs là. Ah, ouais.
Donc c'est marrant parce que Bouvard, vous me montrez une femme qui simule.
Non, pas du tout. Mais Bouvard pensait vraiment que j'étais. Il me l'a souvent dit. Ça me faisait rire qu'il pense ça. Que j'étais très 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 bruyante en amour.
Ouais.
Or non. moins que ma voisine, qui l'était quand les fenêtres sont ouvertes dans la cour. Elle est juste comptable, elle est juste comptable, une petite bonne femme qui ressemble à rien du tout, mais quand elle a un orgasme, tout le deuxième arrondissement est au courant. Alors que moi, qui sur scène ne suis pas en retard d'un grand verbe, d'exulter, de rire ou de gronder, enfin de faire des personnages tout à fait extravagants, je ne suis pas en retard de ça, je n'ai pas de manque là-dessus. Et je pense que c'est plutôt le contraire.
Vous avez l'orgasme silencieux, Marianne James.
J'en ai eu un jour totalement silencieux. Il ne fallait surtout pas faire de bruit. Ce jour-là, ou cette nuit-là, il ne fallait pas se faire repérer. Et je pense que c'est le plus bel orgasme que j'ai eu.
Vous étiez en prison ou quoi ?
On veut des noms.
On partageait dans un gîte à la montagne avec des gens qu'on ne connaissait pas. Voilà, on ne voulait pas les réveiller. Ils étaient vraiment juste à côté, un autre couple qu'on ne connaissait pas. Je pense qu'ils ont fait pareil sans faire de bruit aussi.
En fait, il y a tout le gîte qui s'est éclaté aussi.
Non, on était à 2500 mètres d'altitude et je pense que l'oxygène y était pour beaucoup. Et je devais être amoureuse pour le suivre parce que franchement, monter dans la montagne...
Alors, vous venez nous voir pour un disque de chansons pour enfants, hein, et avec des arrangements très travaillés, une orchestration soignée. C'est un beau projet qui s'est... C'est un beau projet qui se dira aussi les parents. C'est une Tati Jambon qui n'a pas sa langue dans sa poche.
Allez, c'est l'heure, mon petit bouchon. Viens faire un mimi à Tati Jambon.
Tati Jambon, face à un public d'enfants, je me suis dit, comme tout le monde, doucement avec les enfants... Il y a des choses dont on peut dire, probablement des choses qu'on ne peut même pas aborder. C'est faux. C'est entièrement faux.
Faut tout dire aux enfants.
Voilà. L'été dernier, en Avignon, on a fait la création. Le 6 juillet, on a attaqué Tati Jambon en live, en vrai.
Ça, ça vient d'un nom que vous donnent vos nièces.
Oui.
Parce que vous avez réussi. Il y avait
un toutou qui mangeait vegan. Et un jour, je lui ai dit un petit morceau. Ouais, non, un vrai toutou vegan. Ouais, on était vraiment au riz complet et quelques haricots. Voilà. Donc, et un jour, il a goûté du jambon. Et quand je suis revenue quelques semaines plus tard, il a dû se souvenir que cette dame lui avait donné du jambon. Il s'est mis à hurler sa joie. Et ma sœur, depuis son balcon en Ardèche, m'a dit, elle dit au chien, « Oh, mais tu l'aimes, ta Tati Jambon !» Et à partir de là, l'expression donnée, c'était comme un immense sticker qui s'est collé. C'est mais collé sur moi. Et en famille, tout le monde m'a appelé Tati Jambon.
Heureusement que vous n'avez pas filé de la choucroute. Hein.
Marianne James qui vient de nous parler de ce CD pour enfants tous heureux.
À nous le bonheur.
Il y a un spectacle musical, Tati Jambon, le concert, à la Grande Comédie de Paris, un spectacle musical dès 4 ans, et vous êtes 3 sur scène.
Ouais. Philippe Bégin à la guitare, qui est aussi l'arrangeur de l'album, Sébastien Buffet, qui est l'initiateur avec sa chère et tendre chérie Valérie Bourg, qui est la co-auteure, et c'est à nous 4, on est une famille, et je peux vous dire que ça va de 4 ans à 104 ans. C'est, en fin de compte, c'est une grande escroquerie. C'est aussi un spectacle pour les grands.
Et alors, de 2004 à 2007, Marianne James, vous participez au télécrochet Nouvelle Star sur M6. Après, il y a eu l'émission Prodige, une émission des jeunes talents classiques. Ça a beaucoup de succès aussi, cette
énormément
émission.
Énormément de succès, parce que tout neuf, une créa française, vous vous rendez compte ? Là, on le crée, vraiment, c'est
surpris. Et là, vous allez participer à La France a un incroyable talent dans la nouvelle saison.
Oui, exactement. Ça commence dans pas longtemps.
C'est moins classique.
Alors, c'est moins classique, mais alors là, ce qui est étonnant, c'est que le vocabulaire, il faut en avoir. Parce qu'entre un circassien... Une petite mamie qui vient chanter avec sa petite fille et leur toutou favori qui fait ouf ouf au bon endroit. Le chat fait ouf ouf au bon endroit. Ouais. Un chanteur d'opéra qui est aussi rugbyman.
Il y a toutes sortes de gens.
Voilà, il y a vraiment, il y a une palette de vie et d'inventivité. Alors je ne sais pas s'il y a du talent, mais c'est assez incroyable, vraiment incroyable. Et du coup, j'ai bien aimé ce jury. J'aime bien le jury conforme. Ouais. Sugar Sammy, c'est le tout nouveau arrivé, le Québécois Sugar Sammy, qui fait vraiment sa
Hélène Segarra.
Hélène, délicieuse Hélène, vraiment une chouette nana que j'ai découverte. Je la connaissais pas aussi bien que ça. Et le grand Éric Antoine, avec ses 2,05 mètres de haut.
Je vous présente quelqu'un qui a un talent, je ne sais pas s'il est incroyable, c'est Jean-Philippe Vizini. Il veut vous demander des conseils pour devenir chanteur.
Oui, parce que je compte me lancer dans la chanson pour essayer de reconquérir ma femme. qui vous aime beaucoup au passage, hein, elle m'a dit. Vous... Parce qu'en ce moment, entre elle et moi, ben, ça va pas fort, hein, parce que hier soir, j'ai oublié de lui fêter son anniversaire. Mais c'est pas ma faute, parce que hier soir, il y avait aussi PSG-Liverpool. Ah. Alors bon, bah, du coup, je me suis retrouvé. Et donc ce matin, donc, du coup, avant de partir, pour essayer de me faire pardonner de PSG-Liverpool, j'ai essayé de lui chanter une chanson avec des rimes en poule. Et en même temps, j'ai essayé de faire un petit hommage à Johnny. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, parce que vous êtes une professionnelle, alors ça faisait comme ça. Quoi, ma poule ?
Oh là là.
Qu'est-ce qu'elle a, ma poule ? Quelque chose ne va pas ? Est-ce que t'as perdu la boule ? Voilà. Donc, alors.
Mais c'est très bien, non, mais c'est.
Voilà, ben voilà, quelqu'un qui est du métier.
C'est excellent.
C'était, voilà. Attendez.
Alors, est-ce qu'il y a une bonne base déjà ?
Oui, il y a une très très bonne
est-ce
base.
Que je peux progresser ?
Mais pas la bonne.
Alors, progresser, je pense que jamais vous allez pouvoir progresser, mais tenons-nous-en à ce que nous venons d'entendre et oui. Sachons apprécier. Alors, et sachons apprécier ces rimes.
J'ai des
incroyables.
Chances. Oui, bah, j'ai bossé et j'ai des chances de leur. Alors, je me dis, si ça marche pas, moi j'ai peut-être une autre idée. J'ai pensé que pour la faire revenir, je vais essayer de la rendre jalouse. Je pourrais peut-être écrire une chanson pour une autre femme. Pourquoi pas une femme un peu chef de bande ? Pourquoi pas beaucoup plus âgée, soyons original, hein,
beaucoup plus âgé, ça va.
Non, mais je ne parlais pas de vous. Donc voilà, j'ai écrit les paroles cette nuit. Alors, c'est une reprise de Jeanne Masse. Ça s'appelle En rouge et rouge. En rouge et rouge, et toujours en rouge. Pour te faire rêver, ce soir, je t'emmène à Montrouge.
Tu essaies de chanter un peu plus juste.
Ah, mais j'adore.
Mais regardez, elle
mais
adore.
C'est excellent. Mais ça, il faut l'éditer même. Il faut ça, le.
Vous pensez que c'est une
cette
chanson
poésie.
Qui, c'est une chanson qui peut m'emmener loin.
Je t'emmènerai à Montrouge, ça c'est un moment, c'est.
Parce que ma femme vous adore vraiment, elle lit tous vos articles vous concernant, comme la fois où vous avez déclaré dans VSD concernant votre vie intime. Il faut que ça brûle, que ça fasse mal pour que j'ai envie de me mettre nu dans un lit. Et ben ma femme, quand elle a lu ça, le soir même, elle m'a dit « Je veux vivre la même chose, fais-moi comme Maria James, je veux que ça brûle et que ça fasse mal. » Chérie, t'es sûre ? Parce que moi, je le sens pas trop. Alors j'ai fait de mon mieux, je suis allé prendre le fer à repasser, et ben voyez, ça lui a pas plu, tu vois. Pour finir, ce week-end, dans Le Parisien, vous avez déclaré que vous étiez agoraphobe, que vous n'aimiez pas prendre l'ascenseur. Pas non. Et bah du coup ma femme elle veut faire pareil tout comme vous. Alors ce dimanche pendant la journée du patrimoine, la visite de la Tour Eiffel, grâce à vous je m'en souviens. Alors Marianne Gess, merci beaucoup, merci.
Qui vous propose un rendez-vous séduction, Marianne James.
Oui, Marianne. Oui, Anne. Anne, ce midi, m'a chargé de tout faire pour vous séduire. Ah, d'aucuns diront que cet ordre de la patronne relève plus du proxénétisme que de ma fonction de simple chroniqueur. Mais la vérité, c'est que Anne est prête à me placer avec toutes nos invitées, pourvu que je n'approche jamais d'une de ses filles. Ce midi, parce que j'en ai enfin l'occasion, Marianne James, allumons deux bougies. Je vous propose une interview aussi romantique que subtile, intitulée « Comment pécho, Marianne James ?» Marianne James, bonjour.
Bonjour.
Ben H, enchanté.
Marianne,
sachez avant de commencer mon opération séduction que malheureusement je n'y connais rien dans les pratiques sadomasochistes japonaises. Et je ne crois pas vouloir vous saucissonner avec une corde. J'ai quand même ma chance.
Oui, bien sûr.
Parce qu'il y a une interview où vous avez raconté qu'il y a un japonais qui vous a saucissonné à Tokyo.
C'est-à-dire que. Ouais,
je ne sais pas si c'était standard ou pas.
C'était vrai, il s'appelait Teru. Teru, c'était le backliner d'un concert où j'étais juste choriste et percussionniste avec une certaine Isabelle Antena. Et il y avait ce Teru qui était backliner, qui installait les instruments et tout. Et un soir, patatras.
Il s'est mélangé dans les câbles.
Et non, pas du tout, mais il avait peut-être l'habitude des câbles et tout. Et on est arrivé dans cette chambre, enfin, c'était la mienne. Et lui, il parlait pas du tout français. Moi, je parlais pas du tout japonais. Et lui, il parlait pas du tout anglais non plus. Donc, j'ai compris que ça allait être mouvementé. Et une fois qu'on a été dans le lit, la première chose qu'il a fait, il a enlevé la couverture, il a pris ce grand drap, quoi. Et j'ai pas eu trop le choix. Je n'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Mais tout d'un coup, ce drap, il l'a mis sur un poignet. Il l'a entortillé avec l'autre poignet. Mes poignets ont été accrochés à une de mes chevilles. Voilà. Il m'a retourné dans l'autre sens. Et du bondage. Et ça, j'avais pas vu le coup arriver. Et là, tu peux plus faire autrement que d'être consentante. Comment te dire ? Quoi ? Parce que tu peux me dire, hey, stop, stop. Ça veut rien dire en japonais, stop, stop. Ça veut dire encore.
Et en plus, je crois qu'en japonais, aïe, ça veut dire oui.
Exactement. Tu ne bouffes plus. Tu dis, Ouh là là là, ouh là là, ouh le petit bichon japonais. Ouh là là. Et ben, ah, je savais pas que ma tête pouvait être posée là. Du cubisme, mais en amour. Donc, vous voyez.
Je note pour le week-end prochain. Marianne, Marianne, c'est peut-être un peu tôt, mais j'ai envie qu'on parle d'avenir, tous les deux. Tous les deux au quotidien. La bande originale de notre vie, c'est la 5e danse hongroise de Brahms. Un quotidien calme et paisible à chanter et partager la vie ensemble. Ou plutôt Carmina Burana. Un quotidien ardent et passionné où nos corps étrangement raccords se mêlent jour et nuit entre deux violentes disputes.
Carmina Burana.
Je vais prendre cher. À propos, vous avez dit sur le sujet, il faut que ça brûle, comme l'a dit Jean-Philippe, il faut que ça brûle, que ça fasse mal pour que j'ai envie de me mettre nu dans un lit. Si on n'a pas de chalumeau sous la main avec une petite boîte d'allumettes, on peut au moins envisager le canapé ?
On peut envisager le canapé, mais dans cette phrase-là, on se voit la différence entre un interview audio et qui passe à l'écrit. Quand je disais, il faut que ça brûle, il faut que les sentiments soient vraiment très, très, très intenses pour que je me mette toute nue. C'était bien évidemment pas de la douleur physique, mais...
Ah, mais j'avais pas compris.
Voilà,
moi.
C'était l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que je sois vraiment très, très amoureuse maintenant pour y aller, quoi. Voilà, tout simplement.
Qu'à une époque, un japonais avec un drap, allez,
alors qu'il y a 30 ans en arrière, un japonais, un drap, alors là, vas-y, quoi. Alors, pff, aïe.
Monte-moi ton polochon.
Enfin, Marianne, vous dites à propos du track, il faut imaginer que le track, c'est comme un rendez-vous amoureux.
Ça, c'est vrai.
Alors, pour conclure notre premier rendez-vous à nous, j'ai le track de vous poser cette question pour que votre cœur s'emballe définitivement. Après l'interview, on s'envole pour une plage à Rio de Janeiro, on s'enferme dans un monastère au milieu du Creusot. Ou alors, Marianne, vous me dites tout simplement, Ben H, l'aventure s'arrête, pas de Baltar, tu ne seras ni mon prodige, ni ma nouvelle star.
Le tout premier, parce que vous allez me ramener à Rio. Donc, je vais repartir à Rio avec vous.
Partons à Rio, mais tu dois payer l'avion.
Mais c'est fait, c'est comme
c'est
si c'était
ça. C'est un petit peu ça.
Marianne Jacques, votre père a été très important pour vous.
Oh, oui.
Et j'ai lu une petite histoire qui m'a fait pleurer hier soir. Mais je peux la dire quand même. Vous dites que ça me fait pleurer. Que le jour de sa mort, il vous a posté une lettre à 8h du matin.
Oui.
Et vous l'avez lue après sa mort, cette lettre.
Bah, il devait déjà être fatigué, le malaise devait arriver. Mais pour la première fois, alors qu'on s'écrivait toutes les semaines, cette lettre, il l'a envoyée à l'ancienne adresse. Et c'est mon ancienne voisine, Nadia, qui m'a dit « Hé, j'ai encore du courrier pour toi ». Et donc, papa est mort en avril et j'ai reçu la lettre en juillet. Et il y avait vraiment il y avait le cachet de la poste, il y avait écrit, c'était le jour de sa mort. Et il m'écrit tôt le matin, il dit que mon lila a fini par pousser, on est au mois d'avril, que maman fait encore dodo, que à midi, il va trouver les premières petites fraises, que maman sera contente, qu'il va faire des pois gourmands et qu'il va aller vite. Et qu'il a mis une pâtée à Roger hier, à la belote. Et que c'était bon, ils avaient mangé avec Roger et Thérèse, maintenant à cette lettre et tout. Il est allé poster la lettre et il est mort sur la place du marché une demi-heure après, d'une embolie pulmonaire. C'est incroyable d'avoir eu ces derniers mots. Oui, ça c'est assez étonnant.
C'est touchant aussi que ce soit à vous qu'il ait écrit la dernière lettre.
Bah, c'est très épistolaire effectivement. Franchement, les lettres, les mots, les écrits restent. Hein. J'ai toute la correspondance avec ces petites choses. Hein. Écrivez aux gens que vous aimez, mais vraiment un papier, crayon. Et timbre. Écrivez aux gens que vous aimez.
Bah, nous, ça on vous reste. Aime, Marianne James. Le grand public l'a découvert dans les émissions de Jamel et de Laurent Ruquier. Connu pour ses chroniques sur RFI Africa numéro 1, il est aussi l'animateur du Parlement du Rire sur Canal Plus Afrique et le créateur du festival Abidjan, capitale du rire. Faites du bruit pour Maman.
Ouais. Bonjour Anne.
Bonjour Maman. Alors parlez-nous de ce gala sans visa qui est au Casino de Paris dans le cadre du CFA Festival, c'est le 16 avril à 20h.
Oui, c'est le 16 avril, c'est bon, sans visa, on a fait exprès la première année, il y a 2 ans on a fait sans visa à l'européen, donc ouais. pour provoquer un peu les gens, et c'était drôle parce que devant l'européen, il y avait toute une file d'Africains qui étaient là, qui attendaient, et les gens, les passants, ils étaient un peu intrigués, effrayés, ils se disaient que peut-être que c'est devenu un centre de migrants. Et on avait peur que les riverains nous fassent une pétition pour protester contre ça. Donc, on fait venir des humoristes africains qui vivent et travaillent en Afrique.
Et qui sont des stars en Afrique.
Qui sont des stars. Ils jouent dans des stades. 10 000, 15 000 personnes, des gens comme Michel Gohou, Digbe Cravate, Magnifique, Agalawal, ça, ça ne vous parle pas.
Ouais, mais
rien que de dire le nom, les Africains qui écoutent Europe 1, c'est la folie. Il faut courir, aller acheter vos billets et on peut comprendre l'humour. Il ne suffit pas juste d'être africain pour comprendre. C'est l'humour universel.
Et il y a aussi, vous, un spectacle que vous allez jouer qui s'appelle Frontières à la Cigale le 25 avril.
C'est mon tout nouveau spectacle. Je parle des frontières parce qu'aujourd'hui, c'est les frontières partout. Il y a les migrants. On en parle tout le temps, mais parce qu'on veut mettre des frontières devant leur passage. Il y a Trump qui veut construire son mur là-bas. Le Brexit, c'est toute une histoire de frontières. Et moi, dans ce spectacle, je parle de la conférence de Berlin au 19e siècle.
Où les gens se sont partagés l'Afrique.
C'est ça.
Spectacle comique. Hein.
Oui, c'est très comique, vous verrez. Il suffit juste de regarder la carte de l'Afrique pour voir que c'est comique. Quoi.
Mais on dit souvent de Maman que c'est le Raymond DeVos africain. Ça vous fait plaisir quand on vous dit ça?
Ça me fait plaisir, mais... je compte rester vivant encore plus longtemps que Raymond DeVos.
Et donc, vous avez créé avec Jérémy Ferrari le CFA, donc Comédie Festival Africain. Donc, c'est à Paris du 16 au 27 avril. Donc, il y a plein d'événements, dont ce gala sans visa, Occasion de Paris le 16 avril, votre nouveau spectacle,
oui,
et des humoristes africains qui se produisent sur des scènes à Paris.
On part en tournée déjà. Le 17, on est à Bruxelles. Le 18, on est à Marseille. Puis, on va à Bordeaux, Lille, Nantes. Et puis, à la Comédie de Paris, Gohou, Digbe, Joël, Agalawal font leur one man à la Comédie de Paris. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est à la Cigale, Maman tout seul dans son nouveau spectacle.
Et en parlant de Jérémy Ferrari, vous avez des bureaux à Abidjan et il paraît qu'il y a une piscine où personne ne se baigne à part lui.
Oui, on a une jolie piscine dans ce bureau et c'est connu, les Africains ne savent pas nager. Donc on fait tout, on passe autour, on n'entre pas dedans et le seul qui se baigne dans cette piscine, c'est Jérémy. Et on lui a promis, on l'a mis une pancarte, piscine de Jérémy Ferrari.
Maman, votre père était diplomate.
Oui.
Vous avez beaucoup voyagé en Afrique,
oui.
Vous avez vécu à Paris et là vous êtes retourné définitivement vous installer en Afrique vous...
Oui, à Abidjan parce que...
Il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça?
Oui, depuis 2013.
Alors vous aviez une bonne carrière ici?
Oui, mais dans mon spectacle je parle tout le temps des migrants, de la situation en Afrique, des problèmes de démocratie. En France c'est confortable d'en parler, le public qui vient, c'est un public convaincu, mais quand on finit d'en parler ils retrouvent le confort de la vie parisienne, alors qu'en Afrique quand je parle de problèmes de santé, les gens qui ne peuvent pas faire soigner leurs enfants, qui ne peuvent pas les envoyer dans de bonnes écoles, les trous dans les routes, les gens, ça leur parle, puisque c'est leur vécu. Et l'humour doit servir à ça. L'humour doit être utile et pas du divertissement qui, à force d'être divertissement, devient de la diversion.
Ah, c'est beau.
Ah ouais. Je l'ai travaillé.
Maman, vous êtes arrivée en France au début des années 80, après une adolescence passée en Côte d'Ivoire au Cameroun. Vous avez fait des études de physiologie végétale.
Oui, mon sujet de DEA, vous êtes prêts? C'est
ouais.
L'influence du stress hydrique sur la nutrition azotée des légumineuses.
Oh là là.
Enfin, il y a deux écoles sur ce sujet. Hein, voilà. C'est pas...
Vous avez eu combien?
Il y avait cette réaction, ben j'ai arrêté, j'ai fait un DEA, puis...
Ça vous a dégoûté, quand vous êtes arrivé en France, ça vous a dégoûté des études?
Non, c'est pas que ça m'a dégoûté. En fait, j'étais en DEA à Montpellier, et l'année que j'ai passée en DEA au laboratoire, j'avais des plants de soja, 12 fois 4 plants de soja à arroser, mesurer, nourrir, 7 jours sur 7, et je me suis dit non, ça ne va pas être ma vie pendant 3 ans après. Donc j'ai changé, j'ai pris une autre direction, la télédétection, qui est l'étude des photos satellites et tout, et je suis venu à Paris, je travaillais en même temps. Et il y a ce système de carte de séjour étudiant où on n'a pas le droit de travailler plus de 19 heures.
Et travailliez comme quoi?
Je faisais des travaux pratiques, mais moitié au noir, moitié déclaré. Je ne vais pas dire pour quelle université. Peut-être qu'on m'écoute à Jussieu. Et c'est comme ça.
Vous avez perdu vos papiers.
Exactement.
Et vous êtes retrouvé.
Non, je ne les ai pas perdus. On me les a refusés. La préfecture de police a refusé.
Vous êtes retrouvé sans papiers.
Sans papiers.
Pendant combien de temps?
Pendant. Ça a été en plusieurs étapes. Une année, puis on me redonne un récépissé, puis fini, on me le renouvelle pas. Et du coup, donc, j'ai fait tous les métiers. Réceptionniste, je faisais de la salade dans un restaurant à Levallois. Voilà, c'est comme ça. Par
des
cette
petits
survie,
boulots,
des petits boulots.
Payés au noir, pour le
payé
coup.
Payés toujours au noir, à moi.
Maman, quand vous rentrez sur scène, vous dites quoi?
Bonjour. Ou en général, je cherche toujours avant de dire bonjour, je cherche en fonction du public, j'adapte tout le temps une phrase... spéciales, spécifiques pour faire rire le public. Par exemple, sur Sans Visa, quand j'entre, j'ai dit, bon, je vous préviens, il n'y a pas que le spectacle qui est sans visa. Donc les comédiens aussi. Et du coup, je peux plaisanter aussi sur l'horaire, les Africains qui viennent toujours en retard pour le spectacle, pour le début du spectacle. Donc je dis, bon, on a commencé 45 minutes de retard, en Afrique, c'est rien ça. Parce qu'il y a des fois, on a commencé avec 2 heures de retard, où il y a quelqu'un qui est arrivé à 20h45, à l'heure du début du spectacle, on dit, ben entrez. Il dit, non, je suis venu pour voir si vous étiez là, je rentre prendre ma douche, je reviens.
C'est drôle. Et qu'est-ce qu'il dit le président alors du Botswana ?
Du Gondwana. Anne, vous allez finir en prison si vous écorchez le nom du Gondwana.
Qu'est-ce qu'il dit le président du Gondwana ?
Ben, le président du Gondwana, en fait, il n'a pas de nom, il n'a pas de prénom. Il s'appelle notre leader bien-aimé, président fondateur. Le président le plus démocratique du monde. Il fait 2 mandats. Il y a une limitation de mandats. Vous voyez, donc c'est très démocratique. Chaque mandat fait 99 ans. Donc là, il est au premier tiers de son premier mandat. Et il invente tout le temps des élections. Par exemple, est-ce que vous connaissez les élections surprises ?
Non.
Les élections surprises, c'est le président fondateur qui vient à la télé officiellement pour annoncer la date des élections. Et il dit à l'opposition, les élections, c'était hier, j'ai gagné. Voilà, c'est pratique, on économise de l'argent.
Notre invité qui est le docteur de l'âme, le magicien du bonheur. Il n'est pas cardiologue et pourtant chacun de ses livres est un médicament pour le cœur. Il n'est pas musicien et pourtant grâce à lui on peut se créer des lendemains qui chantent. Apaisé et apaisant, il vient nous présenter son nouveau livre « À nous la liberté » écrit avec Mathieu Ricard et Alexandre Jolien. Christophe André est avec nous ce matin. Bonjour Christophe André.
Bonjour Anne.
Ce livre « À nous la liberté » se présente comme un manuel pour se libérer de nos peurs, de nos préjugés, de nos dépendances. C'est plus que jamais d'actualité. En même temps, c'est pas ça qui fait de nous des êtres humains, les peurs, les préjugés, les dépendances ?
Si, jusqu'à un certain point. Nos émotions, évidemment, nos habitudes de pensée, c'est nous, c'est notre personnalité, c'est notre caractère. Mais je crois aussi que chaque être humain a fait un jour l'expérience d'être envahi par ses émotions, par ses ruminations, et de se dire, bon sang, si je pouvais me libérer de cette colère, de cette angoisse, de ces inquiétudes, ça serait quand même assez cool.
Vous n'avez pas un truc pour se libérer de l'obsession constante pour le chocolat ? C'est pas pour moi, c'est pour une copine qui s'appelle aussi Anne. Anne Romanoff, non. Ouais. Non, mais se libérer de nos peurs, de nos dépendances, en fait, c'est un bouquin pour arrêter de fumer si on a peur pour sa santé. C'est...
Entre autres, vous savez, les dépendances, alors évidemment, il y a les dépendances aux substances, l'alcool, le tabac ou d'autres.
Les femmes, pour.
Oui.
L'amour, alors, vous voulez dire.
Ça, c'est les dépendances relationnelles.
Non, lui, il a tout. Hein, lui,
On peut être aussi dépendant du jugement des autres.
Ouais, il a ça aussi. Voilà.
Ça, c'est Christine, elle est très dépendante de moi.
C'est les réseaux sociaux, moi. Il y a
exactement.
Ouais. Sors ta carte vitale parce que là, tu vas.
Là, tu sais qu'il faut un an d'attente pour avoir un rendez-vous. Là,
non, mais alors, si je peux me permettre, c'est quand j'avais 20 ans.
On n'a pas le temps, Christine. Ah, non, mais...
Je voulais le dire parce que je sens que c'est le moment de le placer. J'avais des phobies sociales quand j'avais 20 ans et j'ai lu votre livre, La peur des autres, et ça m'a un peu sauvé la vie.
Un peu, t'as encore beaucoup de phobies.
Tu m'aurais connue avant que... Non, mais c'est horrible parce que là, avant, quand je parlais à quelqu'un, là par exemple, je me serais dit, oh là là, elle me juge, elle va me virer, je suis pas à la hauteur, tout c'est genre cette femme.
C'est un peu ça en fait.
Et maintenant, j'arrive à être dans l'instant présent et c'est grâce à Christophe André.
Bravo, bravo. Je suis très touchée de voir ce que vous avez fait le boulot. Aidé en partie par le livre. Oui. Ouais. Et ça, c'est effectivement cette dépendance d'être sans arrêt dans l'inquiétude de savoir si nous sommes aimés, qu'est-ce qu'on pense de nous. C'est le dérapage. C'est-à-dire, c'est normal de vouloir être aimé, c'est normal de se demander, tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de se dire sur moi. Ça n'est pas normal si ça devient une obsession paralysante qui dicte nos comportements. Et c'est ce travail de libération-là que nous essayons d'aborder dans le livre. Se libérer du trop. Trop d'inquiétude, trop de peur, trop d'obsession du jugement ou du nombre de likes sur mon je sais pas quoi, là, Instagram.
Vous êtes contre les réseaux sociaux, Christophe?
Je suis pas contre.
Vous dites que c'est pas bon pour la sérénité.
Ouais,
quoi,
les réseaux sociaux, c'est comme le sucre ou l'alcool. C'est-à-dire, à petite dose, un côté sympa, savoureux.
Ou comme les femmes, un
quelques
ménage.
Fraises d'agada. Mais c'est addictif. Ce sont des circonstances ou des substances très rapidement addictives qui vont perturber perturber notre cerveau et donc nous rendre malheureux à la
sortie. Vous conseillez, quand on se repose, de vraiment couper les écrans, d'aller dans la nature, de respirer de l'air frais.
Ouais, clairement.
Oui, mais à Paris, comment on fait pour respirer de l'air frais?
Eh bien, déjà,
c'est le bois de Boulogne. Il y a le bois de Boulogne, mais bon, après.
On fait des rencontres.
On fait des rencontres. J'ai un certain budget.
Comment on fait pour respirer de l'air frais à Paris?
Non, sérieusement, sérieusement. Avant même de respirer de l'air frais avec nos poumons, on peut en faire respirer un peu avec notre cerveau. C'est-à-dire on lâche effectivement les réseaux sociaux, les écrans, quand vous avez un instant où vous êtes obligé d'attendre à la caisse d'un supermarché ou votre bus, votre métro, j'en sais rien, au lieu de plonger tout de suite sur l'écran, même si on n'a rien de précis à chercher, se dire non. Prends soin de ton cerveau, c'est-à-dire redresse tes épaules, respire un peu et laisse décanter tout ce bazar que tu accumules dans ta tête en siphonnant toutes les informations, en acceptant toutes les sollicitations. Quand ton téléphone sonne, bip, alors que tu es en train de parler à un humain, donne la priorité à l'humain. Il y a un machin qui marche très bien.
Et quand c'est un extraterrestre,
il y a un machin qui s'appelle un répondeur téléphonique qui va prendre le message. Et quand tu auras terminé ton interaction avec cet être humain en face de toi, tu regarderas ce que c'est. Moi, il n'y a rien qui me rend plus dingue que de parler à quelqu'un et puis, ah, attends, on m'appelle. Mais attends, on t'appelle, mais je te parle quand même. Ouais. Alors, vous voyez, c'est ça.
Mais on donne la priorité à celui qui est derrière le téléphone.
On donne la priorité aux écrans parce qu'on est devenus des esclaves. Ah. Des esclaves de tous les bips, de tous les pouets, de tous les ch'tongs, de tous les clings qui nous signalent que quelqu'un s'intéresse à nous. Voilà. Et on a quelqu'un en face de nous, mais on l'abandonne. On abandonne l'humain pour la machine. Voilà. Ce genre de libération me tient à cœur. Ça ne veut pas dire que je suis contre les portables ou les écrans. J'en ai un, je m'en sers, mais je suis très attentif.
Vous devez avoir beaucoup de messages sur votre répondeur.
et surtout, je n'y réponds pas tout de suite.
Ah bon ? Alors,
oui, j'ai que ça, c'est un côté un peu vieux pervers.
Vous laissez
quand, chaque fois que quelqu'un m'envoie un SMS qu'il termine par « à très vite »,
punition,
là,
vous le rappelez
pareil,
pas.
Qu'est-ce qui se passe quand on vous dit à très vite?
Je perçois ça comme un ordre. Deux choses. D'abord, j'ai l'impression qu'on me donne un ordre. Bouge-toi les fesses et rappelle-moi tout de suite. Et deuxièmement, j'ai l'impression d'avoir une victime en face de moi. Une victime de ce que j'appelle l'accélérite. Pourquoi aller de plus en plus vite? Pourquoi vouloir faire de plus en plus de trucs, de plus en plus rapidement? Pourquoi devrait-on répondre instantanément?
Moi, souvent, je mets bisous, du coup, c'est bon ou pas?
Ah, bisous, c'est beaucoup bisous, plus c'est sympa. Bon, hein. Bah oui, oui, oui.
Et
c'est
moi,
pas
je mets biz, B-I-Z, ça va ou...
Ah ben c'est très bien.
Moi, j'ai écrit une fois très vite, mais l'écriture automatique, elle lui est envoyée à très vite. Ben, il m'a rappelé dans la seconde.
ça arrive, ça.
Ça, c'est vrai, en plus.
Christophe André, vous dites que dans votre jeunesse, vous étiez donc psychiatre et vous étiez dans le Sud et vous étiez un coureur, vous sortiez toutes les nuits, vous aviez plein de femmes, vous faisiez de la moto, vous étiez un peu un jeune chien fou, jusqu'à 30 ans, en fait.
Oui, oui.
Mais prenez pas un air désolé.
Si, si, non. J'ai l'air désolé et je le suis parce que je pense que j'étais assez égoïste et que j'ai fait souffrir beaucoup de mes petites copines à l'époque. Bon, voilà.
Il y a des hommes qui font ça toute leur vie en même temps.
Il
est arrêté à 30 ans.
Je l'ai
plein. Il est juste à côté de vous.
Des mufles.
Il a du temps devant lui encore.
Ah non, parce qu'il est plus vieux que ce qu'il a l'air. 31 ans. Et donc un jour, il y a votre meilleur ami qui meurt dans vos bras dans un accident de moto. Donc c'était comme un frère pour vous en fait.
Oui, c'était.
Et là, ça a changé votre vie, en fait.
Oui, ça a été, vous savez, quand effectivement un très très proche meurt de façon accidentelle,
devant
assez dramatique, devant moi, dans mes bras, etc. La terre s'ouvre sous vos pieds. Donc, ça a été un très très grand chagrin. Je suis allé me retirer dans un monastère pendant une quinzaine de jours. J'arrivais plus à
revivre comme avant, en fait. Vous dites que vous étiez dans votre ville, tout vous rappelait votre ami.
C'est ça. C'est tout. Chaque coin de rue me rappelait nos aventures. Et donc, ça a été la vraie cassure, la vraie cassure dans ma vie. Et j'ai pris la décision d'arrêter de vivre comme ça. C'était plus possible. Ça ne me faisait plus plaisir, quoi, de vagabonder, de faire ce tourisme sentimental. C'était quand même, c'est une parenthèse, c'était déjà de la psychologie. Moi, j'adorais rencontrer des
femmes, les comprendre. Femmes, vous dites, allez voir les livres qu'elles avaient chez elles. Enfin, oui, vous n'avez pas que regarder les livres.
Non, je regardais tout. mais c'était vraiment, ça me plaisait, quoi, de faire toutes ces rencontres. Simplement, je ne répondais pas à vos attentes. Quoi. Je m'occupais que de moi et pas des autres. Et donc voilà, la mort de mon ami a été quand même un tremblement de terre gigantesque qui a fait que j'étais prêt à basculer sur une autre période de ma vie, plus altruiste, plus authentiquement.
Donc après, vous avez rencontré votre femme, voilà, vous avez eu trois filles.
Ouais. Et puis je suis venu à Paris, j'ai quitté Toulouse où il y avait trop de chagrin, trop de fantômes. Et j'ai décidé aussi de changer ma façon d'être un humain, d'être voilà, plus attentif à autrui. Alors, ce qui est drôle, c'est que j'étais...
On arrive à arrêter les femmes comme ça du jour au lendemain ?
Bah ouais. Non, mais ce que je cherchais, moi, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais c'est un peu vrai quand même. Je crois que ce qu'on cherche dans les aventures, lorsqu'elles sont répétitives comme ça, c'est deux choses. D'une part, être rassuré. Pour savoir si on est vraiment digne d'être aimé, d'être... voilà, on cherche, c'est un peu comme l'histoire des likes. Et puis d'autre part, on cherche du lien. On cherche, c'est bien de rencontrer des humains, c'est bien d'échanger, de partager, de découvrir. Donc j'ai continué ces recherches de liens, mais d'une autre façon, plus tranquillement, sans être obligé de faire passer tout le monde à la casserole.
Tu entends, Ben H ? Alors, on parlait du lien tout à l'heure, et vous distinguez plusieurs types de liens dans le livre. Il y a le lien matériel, enfin, vous dites que le lien peut apporter le soutien matériel, soutien informatif, où on peut avoir des informations quand on rencontre des gens, soutien affectif, un soutien d'estime. Et le cinquième apport du lien, c'est la valeur inspirante de leur exemple quand on rencontre des gens, c'est ça ?
Oui, ça, ce que vous venez d'évoquer, effectivement, c'est ce qu'on appelle le soutien social dans la recherche scientifique sur le lien, c'est-à-dire un ami, un copain, un proche, il peut nous aider à déménager, soutien matériel, il peut nous donner des bons conseils, soutien informatif, etc. Et
puis, il peut nous plaire, soutien-gorge.
J'ai des grands névrosés parmi nous. Hein. Vous avez du travail, si vous pouvez nous emmener Ben H et Christine Béraud en stage de méditation, vous me les prenez trois jours. Et encore, Jean-Philippe Vizy n'a pas parlé, c'est un autre type de névrose.
Non, moi je suis complètement sain d'esprit.
On verra tout ça après l'émission. On va pas traiter ça en direct.
Moi-même, je suis un cas psychiatrique, oh Christophe André.
Je suis la seule normale, en fait.
Oh là, on a un petit peu de toi.
Il faut toute la clinique, surtout.
Mais non, vous savez, en plus, il n'y a pas de frontière étanche hein, entre les patients et les non-patients. C'est une question.
Vous-même,
de...
vous avez essayé la psychanalyse, vous êtes allongé deux fois sur le divan, ouais, vous dites que ça a été une catastrophe.
Ah ouais, catastrophe.
Pourquoi ?
C'était pas fait pour
moi. Vous connaissiez trop ce qu'on allait vous dire ? Quand le mec faisait
Je trouvais que c'était très frustrant d'être face à quelqu'un qui ne dit rien. Deuxièmement, très ennuyeux. Troisièmement, les psychanalystes que j'ai rencontrés, en tout cas, ne me faisaient pas envie. Et là, ça rejoint un peu ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que pour être aidé par un thérapeute, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, il faut quand même que le thérapeute incarne une façon d'être, qu'il soit tout de même un petit peu apaisé, un peu stable, un peu réconfortant, un peu inspirant. Peut-être qu'on ait envie d'écouter ses conseils. Bon, c'était pas le cas avec les psychanalystes que j'ai rencontrés.
Moi, riait mon psychanalyste.
Ah, oui.
Et je payais quand même.
Il était déjà un peu hors norme, parce que normalement, ils doivent rester neutres, impassibles, etc.
Ah bah moi, j'étais couché et puis j'entendais glousser derrière. Donc lui, il riait vraiment.
Bon,
il n'avait pas le droit.
Vous avez dû lui faire beaucoup de bien. En tout cas, c'est pas orthodoxe. À votre façon. C'est pas toujours rigolo hein, d'être psychanalyste.
Une fois, il m'est arrivé un truc fou. C'était très longtemps. Il y avait une secrétaire qui était assez mal dans sa peau et elle bossait dans un cabinet où il y avait trois psys, donc quand même. Et elle avait son bureau contre un mur. Et un jour, j'arrive, elle me dit, vous savez, elle m'avait pris en sympathie, elle m'a dit, vous savez, si j'avais pas promis à ma mère sur son lit de mort de m'occuper de mon chien, je rentrerais chez moi, je me tirerais une balle dans la tête. Elle me dit ça, moi. Elle était dans un cabinet avec trois psys. Donc je m'allonge pour la séance et je dis, non, écoutez, avant de commencer, là, il y a votre assistante qui veut se suicider.
Alors
il m'a dit, et si on parlait de ce besoin que vous avez tout le temps d'aider les autres ? J'ai dit, oui, mais là, elle veut se suicider. Alors il m'a dit, pour en revenir au principe de réalité, un collègue l'a pris en charge. J'ai dit, oui, mais il est psy ? Et il m'a dit, oui. Je dis, bon. Et la fois d'après, elle était là. Donc,
vous l'avez sauvé.
C'est gentil à vous.
Est-ce qu'à un moment, Christophe André, vous ne vous sentez pas prisonnier de votre personnage de grand prêtre du développement personnel ? Non, mais que vous êtes obligé, par exemple, vous ne pouvez pas vous énerver d'un coup ou péter les plombs ou...
Alors, vous savez, pour connaître...
J'imagine que vos enfants se moquent de vous quand vous énervez, ouais, ou que vous n'êtes pas en accord avec vos principes.
Pour connaître la vérité sur quelqu'un, il faut interroger ses proches. C'est facile de mentir socialement. On peut mentir devant un micro, devant une caméra, on peut mentir devant une assemblée. Et moi, je vois très souvent des gens qui mentent et ça me met très mal à l'aise. Des personnes, des personnages publics dont on sait ce qu'ils sont en coulisses et qu'on voit effectivement parader. Bon, c'est là. Ok, on sait tous que la vie est comme ça. Par contre, demander aux proches, effectivement, demander à mes filles si je suis toujours zen, demander à ma
qu'est-ce
femme...
Qu'est-ce qu'elles disent?
Elles vont vous dire deux choses. Alors, je vous parle un peu à leur place, mais après tout, vous pourrez vérifier après l'émission, faire une autre émission avec elles, si ça vous amuse. Elles vont vous dire deux choses. Elles vont vous dire d'abord, ben, il n'est pas toujours zen, il n'est pas toujours gêne, quand il y a la chasse d'eau qui fuit à 4h du matin.
Le développement personnel, pas vous péter
voilà,
les plombs.
Ça m'arrive. Mais elles vont vous dire aussi que je progresse tous les ans. C'est-à-dire que d'année en année, je suis de moins en moins casse-pied, de moins en moins stressé, de moins en moins injuste.
Mais faudra la faire réparer la fuite quand même à un moment. Est-ce que c'est pas ça la solution de faire réparer la fuite, Christophe André ? Vous parlez de la différence entre les hommes et les femmes. Vous dites qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui lisent vos livres.
Oui.
Et vous dites que les femmes sont plus souvent soumises à la bipolarité, à l'angoisse, à la dépression, et que les hommes, quand ça va pas bien, ils deviennent alcooliques et un caractère irritable.
C'est pas moi qui dis ça, ce sont nos études. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. L'étude de la fréquence des problèmes psychiatriques selon les sexes. Et effectivement, les femmes ont davantage de ce qu'on appelle de problèmes intériorisés.
Et vous dites que les souffrances masculines sont d'ordre comportemental. Certains hommes deviennent invivables, agressifs, colériques. Oui. Ils compensent en picolant, fumant ou travaillant trop.
C'est ça, les pathologies.
Ça, je l'ai observé.
Vous avez donc un regard scientifique formes de...
Mais comment vous expliquez ça? Parce que ça, on n'en parle pas souvent, ça, de cette histoire d'homme invivable, agressif, colérique.
Il y a peut-être des différences à un niveau biologique, mais c'est surtout les permissions que nous donne la société. Vous savez, pendant longtemps, en tout cas, notre société ne permettait pas aux femmes de prendre l'espace social pour se plaindre. Elles devaient se taire, par exemple, mais pour toutes les émotions d'ailleurs, pas seulement les plaintes. On a des études passionnantes sur... les femmes se mettant en colère. Quand une femme se met en colère dans une entreprise ou dans une famille, qu'est-ce qu'on dit d'elle ? On dit
elle est
chiante, elle est caractérielle et hystérique.
Ben je sais.
Quand un mec se met en colère au travail,
il a du caractère.
Voilà, il est viril.
Il se laisse pas faire, il a du caractère.
C'est
et donc, c'est, tout est comme ça. Les femmes n'ont pas le droit finalement de s'exprimer dans nos sociétés.
Un homme qui pleure, on dit qu'il est sensible. Une femme qui pleure, on va dire elle ne sait pas se tenir.
Elle est géniale, voilà. Et donc pendant longtemps, ça a été comme ça. Donc du coup, les femmes, elles sont plus intelligente que ne le croient beaucoup d'hommes. Et donc, vous savez, puisqu'on ne me permet pas d'exprimer mes émotions, je vais les réserver à mes copines. Donc, je dialogue beaucoup avec mes amis pour vidanger, nettoyer, pacifier mes émotions. Et puis, le reste du temps, elles cogitent, elles intériorisent, elles se font du souci dans leur tête. Comme les hommes ont davantage de droits sociaux, c'est en train de changer. Moi, je suis attentif à ça parce que j'ai trois filles et ça me déplaît.
Des gendres déjà ?
Pas encore de gendres stables.
Ah, pas stable, des gendres. Instable. Vous avez
chouettes.
Des benaches.
Ils seront bienvenus, s'ils sont sympas, etc. etc.
Bah écoutez, on peut faire ça ce week-end.
Attends de savoir quel âge elles ont quand même.
Il faut m'amener votre carnet de notes et avoir un petit entretien quand même. Moi avant.
Vous n'allez pas être déçus du carnet de notes. Elles ont quel âge vos filles, Christophe André ?
Non, elles sont grandes, je rigole. Elles ont entre 20 et 25 ans maintenant.
Ah oui,
bon,
quand même.
C'est toujours mes petites filles. Hein. Ça ne changera jamais.
Ça ne doit pas être évident d'avoir un beau-père psychiatre. Hein.
Écoutez, non, moi je crois que c'est très bien, mais je pense que
non,
je
me mets à la place du mec. Non, mais je me mets à la place du mec qui arrive et qui vous rencontre.
Ouais,
il doit dire, il va me scanner.
Ça, c'est le problème. À la fois une chance et une malchance qu'on a quand on est psychiatre. Vous êtes invité à dîner, à un repas, et puis si vous dites rien parce que vous êtes juste
tout
fatigué,
tout le monde croit que vous les observez.
Tout le monde se dit, punaise, qu'est-ce qu'il est en train de faire.
Je préfère que mon beau-père soit psychiatre que boxeur. Enfin,
Alors, Christophe André, dans ce livre, vous dénoncez l'égocentrisme et l'égarement. Vous avez envoyé ce livre à Emmanuel Macron ?
On aurait peut-être dû, mais pas qu'à lui, hein, honnêtement. Pas non plus trop le charger.
Vous dénoncez quand même le narcissisme, l'égocentrisme, et c'est pas bien pour être heureux, ça, d'être égocentrique.
Non, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, effectivement, s'occuper prioritairement de soi ne rend pas si heureux que ça. Et c'est assez simple. Hein, toutes les études qu'on peut faire sur ce qui rend les gens heureux montrent que beaucoup de leur bonheur viennent des autres. Pour recevoir des bonnes choses des autres, le meilleur moyen, c'est de leur donner. Et effectivement, on a des tas d'études montrant que plus quelqu'un est intéressé par les autres, plus quelqu'un se tourne vers les autres, plus quelqu'un est altruiste, plus son niveau de bonheur augmente. Et pour beaucoup de nos contemporains, pourtant, c'est un peu contre-intuitif.
Pourtant, il y a cette phrase qui dit qu'il faut commencer par être heureux avec soi-même plutôt avant d'être heureux avec les autres.
Alors, et puis on peut être blessé par les autres aussi.
Bien sûr, non, mais les autres sont des sources de bonheur et de souffrance potentiellement, mais dans tous les cas, ce sont des sources d'enrichissement. Et quant à l'histoire de placer son bonheur avant celui des autres, je ne sais pas si c'est avant, après, au même niveau, il y a tout de même, on a des études sur ce qu'on appelle l'auto-bienveillance. L'auto-bienveillance, c'est se parler à soi comme on parlerait à un ami. Si vous avez un ami qui échoue, vous ne lui dites pas « t'es nul ». Vous lui dites bah, « c'est embêtant, qu'est-ce qui s'est passé ?» Réfléchis un peu au truc, n'oublie pas quand même que tu es capable, tu es quelqu'un de bien. Et c'est prendre ce réflexe vis-à-vis de soi. C'est pas si évident. C'est pas si évident parce qu'on a l'impression que comme on se connaît bien, on peut se dire des vacheries. Le problème, c'est que on est comme tout le monde. On ne peut faire le travail d'autocritique, d'auto-transformation que dans une ambiance aimante. Si vous voulez qu'un enfant apprenne les maths à jouer du piano, il faut qu'il se sente en sécurité avec vous. Si vous
êtes enseignant. S'il ne range pas sa chambre, on fait quoi, là?
Il faut taper dessus.
C'est le cocktail. Il faut qu'il sache qu'on l'aime, mais qu'on sera sans pitié sur le bazar dans la chambre. Donc, c'est le boulot des parents. C'est de rappeler leur amour, mais de rappeler aussi les limites. Et c'est pour ça que c'est parfois fatigant, certains jours.
Quelqu'un qui est parfois aussi un peu fatigant, c'est Jean-Philippe Vizini, Christophe André, et il a des choses à vous dire.
Mais oui, parce que vous vous rendez pas compte, Christophe André, à quel point nous sommes semblables, vous et moi. Laissez-moi finir, j'ai pas commencé encore. On a beaucoup de points communs. Vous venez ici pour ce beau projet, ce livre que vous avez écrit à trois mains. Moi aussi, avec ma femme, j'avais un beau projet avec trois mains, mais on n'est pas allé au bout. Bon, bref, dans votre livre, donc dans la première partie, vous parlez des obstacles de la liberté intérieure. Ah ben ça, je vis ça au quotidien, moi. Ça fait trois semaines que j'héberge ma belle-mère à la maison. Hier soir, je rentre du boulot un peu tard. Tout le monde était couché. Je vais me mettre au lit, je me déshabille. Oui, j'ai l'habitude de dormir tout nu. Le lendemain, ma femme rentre dans la chambre. Ah ben, qu'est-ce que tu fais là? Hier, je t'ai envoyé un texto pour te dire que ma mère dormait dans notre lit. Ah ben, effectivement. Bonjour, belle-maman. Vous voyez, la liberté intérieure, hein, elle a pris un obstacle chez moi, hein. Dans votre livre, alors dans la deuxième partie, vous parlez de l'écologie de la liberté. Hein, c'est ça, l'écologie de la liberté. Alors ça, l'écologie, nous, ça nous parle. Hein, on est hyper écolo à la maison. On mange que des légumes 100% bio. Ouais, ça c'est bien. L'avantage du bio, c'est qu'on n'a plus besoin d'acheter de la viande maintenant. Ah ben depuis qu'ils ont interdit le glyphosate, il y a plein d'insectes dans les légumes. Ça nous fait des protéines gratos. Troisième partie dans votre livre. Alors là, c'est j'adore ce moment-là. C'est les efforts vers la libération. Alors ça, avec ma femme en ce moment, on est en plein dedans. Elle m'a demandé ce qui me ferait plaisir pour 2019. Mais je lui ai dit qu'elle fasse des efforts vers la libération. Alors samedi dernier, le soir, on est allé dans un club où les gens font des efforts vers la libération. Hein? D'ailleurs, Ben, je savais pas que tu fréquentais ce genre d'endroit.
Je veux me libérer.
Hein? Ah bah attendez, vous êtes tous connus comme le loup blanc là-bas. Hein? Quand j'ai dit que je bossais avec Anne Roumanoff, ils m'ont mis à la meilleure table. Alors, hein? Bref, on a été dans un club pour faire des efforts vers la libération. Et ben, elle est tellement libérée que depuis, ça fait 5 jours, elle est toujours pas rentrée à la maison. L'autre.
Heureusement, il y a la belle-mère. C'est
exactement. J'ai pas autant d'ouverture d'esprit que vous, mais j'y travaille. Alors, j'ai pas encore lu votre livre jusqu'à la fin, mais j'ai hâte de le terminer pour savoir ce qui va bientôt m'arriver. Merci, Christophe.
Découverte il y a 30 ans dans Les Nuls, depuis elle est devenue une des actrices les plus populaires du cinéma français. Elle est drôle, tendre et subtile. Il est le réalisateur qui a dépoussiéré le thème du vivre ensemble au cinéma et qui a battu tous les records avec Le Bon Dieu. C'est un duo de choc, Chantal Lobby et Philippe de Chauron, qui sont avec nous pour nous parler du film Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu, qui sort aujourd'hui dans les salles. Merci. Bonjour Philippe de Chauvron et Chantal Lobby.
Bonjour.
Bonjour.
Comment on se sent alors ce jour de sortie? Vous avez un peu le trac?
Ben oui. oui et non.
Oui et non, parce que oui. Vous êtes sur le film et vous avez fait plein de projections et les gens rient.
Oui, les gens rient, les gens s'amusent, tant mieux, ça c'est bien. Mais on a toujours cette petite appréhension que vous connaissez bien. Vous savez, celle qui vous fait la petite boule au ventre avant de...
Oui, elle la connaît, elle joue ce soir au Casino de Paris. Elle a Philippe voilà. aussi.
C'est pour ça.
Philippe de Chauvron, quand on a fait 12 millions d'entrées, qu'est-ce qu'on se fixe des objectifs pour le numéro 2 ou on se dit...
Le double.
24.
Non, enfin, non. Je ne veux pas dire, pas mentir, on a au moins la moitié, voilà.
Ah, et ça sort dans combien de salles aujourd'hui?
Ça sort dans 800 salles.
800 wow, salles même. Philippe c'est de Chevron, alors 5 ans se sont passés entre les deux tournages, vous avez retrouvé vos acteurs changés? Est-ce que certains ont attrapé la grosse tête après le succès? Ou est-ce qu'ils l'avaient avant? Comment ça s'est passé?
Non, j'ai eu la chance. Après, je fais attention aussi quand je fais un casting ou je choisis des acteurs de ne pas prendre
les casse-couilles.
Les, voilà.
Ouais, c'est important. Donc, ils ne se sont pas tirés la bourre pour le deuxième en disant moi je veux exister plus et blablabla.
Non, après, il y a toujours des discussions, mais c'est vraiment, c'était bénin. Ouais. Et puis, ils s'entendent bien, voilà. Bah, déjà, Christian et Chantal, franchement, ouais. les deux ensemble.
Vous vous connaissiez avant?
J'avais rencontré Christian, il avait participé à l'émission des Nuls. Là, vraiment, je me souvenais de fou rire avec lui, extraordinaire. Mais j'avais jamais tourné avec lui dans un film. Donc, j'étais très contente. Si, c'est... dans Astérix, ouais. mais on n'avait pas des scènes vraiment ensemble.
Et là, ça s'est très bien passé entre vous.
Ah, mais j'adore. J'adore parce qu'il a dans les yeux ce petit truc de rire, machin, et on a juste à se regarder, on sait que. Et je savais des fois quand il allait me placer une petite phrase en plus pour voir ma réaction, alors je me préparais, et j'essayais de préparer quelque chose moi aussi. Donc c'était un petit jeu qu'on avait entre nous.
Et j'ai découvert en lisant votre biographie, Chantal Lobby, que votre mère était catholique pratiquante.
Oui, bien sûr.
Et du coup, il y a un écho avec votre propre enfance, parce que vous dites que votre mère était catholique pratiquante et en même temps rock'n'roll, un peu loufoque.
Ah oui, complètement. Oui, elle riait bien avec les trucs des nuls et tout, mais il l'empêchait qu'elle allait quand même à la chapelle, nettoyer un peu, arranger un peu tout ça. Voilà. Je la revois encore faire ça, et même à sa mort, le curé a fait un discours là-dessus en disant « Madeleine était formidable pour ce qu'elle a fait pour la chapelle et tout ». J'ai appris des tas de choses sur elle. Elle faisait catéchisme à des gosses et tout. J'adorais ça.
Donc il y a un vrai écho en fait avec ce rôle.
Complètement, et même avec la maman de Philippe.
Oui.
Même avec Philippe, quand on avait discuté de ce personnage, la manière dont il me parlait de sa maman, j'entendais la mienne.
C'est vrai que votre mère est assez incroyable, Philippe de Chauvron.
Ma mère, ah oui.
Je l'ai rencontrée dans la rue à Noël.
Ah bon,
non, parce que...
Expliquez-nous ça.
Oui, raconte, c'est pas au bout de l'anecdote.
Ouais, bah, vous.
Non, je vais pas raconter.
Mais si,
raconte.
Bah, si, maintenant vous avez commencé.
Non, mais parce qu'on était dans le même lycée avec Philippe de Chauvron quand on était petit. Donc on s'est connus à 16 ans, ou je sais pas, 15 ans. Et donc j'ai rencontré ta mère dans la rue. Et je lui dis, alors c'est bien le film? Oh bah, c'est pas sûr que ça marche autant que le premier. Mais bon,
sympa. Sympa.
Alors dans ce second volet, il fallait trouver une idée. Vous vouliez pas faire une suite forcément, Philippe de Chauvron, et vous avez trouvé une idée. Donc c'est des gendres qui rêvent de s'installer à l'étranger et les parents qui font tout pour les retenir.
Bah oui, quand les quatre décident de partir, ça fait une drôle de gueule quand même.
Oui, en fait, ils veulent quitter la France pour diverses raisons. Et ce qui m'amusait aussi, c'est que dans le premier, si ils avaient fait ça dans le premier épisode, le personnage joué par Christian Clavier aurait été ravi qu'ils partent. Et là, il va tout faire pour les retenir. Ouais. Donc ça m'amusait aussi.
Puis il y a beaucoup, ça correspond à un phénomène social, il y a beaucoup de Français qui partent à l'étranger, que l'étranger fait rêver.
Oui, il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français aussi qui se plaignent de la France, qui râlent, qui pensent que c'est mieux ailleurs. Voilà. Donc ça aussi,
sinon,
ça
on ne serait pas français.
Pas.
Des voilà. Français qui râlent, vous êtes... j'aurais remarqué. Hein. J'aurais remarqué.
On a appris tout à l'heure que vous connaissiez Anne Romanoff quand elle avait 16 ans. Vous n'avez pas un truc à nous raconter sur
à
elle
16 ans, ouais, moi je vois ça. À 16 ans,
15 ans, même,
ouais, à 15 ans, c'était qui son mec?
Mais elle en avait pas.
Je sais plus.
Ah oui,
c'est
voilà.
Trop vieux,
t'as oublié.
En fait, j'étais pas dans sa classe, mais je.
Non,
me suis...
mais en fait, je l'ai toujours considéré comme un petit parce qu'il était la classe en dessous. En fait, on est la même année et c'est son frère qui était dans ma classe.
Et maintenant qu'il a fait 12 millions, tu l'appelles monsieur.
Non, je me dis, je le vois plus pareil.
Je me souviens que c'était ma mère l'a cité en exemple parce qu'elle travaillait très bien à l'école.
Ah, t'étais bonne élève.
Vous pouvez dire à votre maman que ça a beaucoup changé.
Et on avait fait un stage de cinéma quand on avait 16 ans pour... hein, tu te rappelles pas?
Ah oui,
oui, pour faire un court-métrage ou je sais pas quoi, pour devenir réalisateur.
Ah oui, quand même.
À la campagne,
oui, je me souviens.
Il y a eu des trucs alors entre vous?
Non, rien du tout.
Rien, non. Et avec le frère non plus?
Ah bah le frère.
Ah, Chantal,
merci Chantal.
Voilà, merci.
Alors, le frère, connard.
Okay. Elle a eu une histoire avec.
Non, j'en ai pas eu justement. Non, il a pas voulu.
Bah.
Il y en a qui ont essayé.
Non, mais il m'a fait mariner, je sais pas.
Et surtout, à un moment, je suis sortie avec un mec.
On sent que c'est encore frais, hein.
C'était il y a 36 ans.
J'étais allé, moi.
Un mec, le mieux du lycée.
Vous?
Oui. Et l'autre, ton frère,
il se met à me regarder avec des yeux, tu vois.
Ah ouais.
Un peu.
Colère. Alors qu'il t'avait dit non avant.
Alors qu'il me. Tu vois. Et donc je me dis, bon, ça y est, il craque pour moi.
Et en fait, non.
Quand je sors plus avec l'autre, eh ben, je l'intéressais plus. Ah.
Vous avez voulu vous taper tout le bahut. C'est
bien gênant.
Tu l'as jamais revu?
Si, je l'ai revu, mais il est beaucoup moins beau qu'avant.
On apprécie votre franchise.
Hein. On lui passe le bonjour.
Oui. Alors, non, mais c'est normal qu'il y ait voilà. Donc, du coup, je m'intéressais forcément à sa famille parce que oui, c'était ma cible.
C'est mais pour si ça que Madame de Chevron disait : regarde comme elle travaille la petite Roumanoff.
Voilà,
mais
voilà.
Si son frère avait su que vous auriez une émission à Europe 1, je pense qu'il vous aurait pécho. Rien hein, pour vous parliez pas de lui. Quoi.
Et Chantal Lobby, alors ça vous dit pas de réécrire une autre comédie, voire de rassembler le trio de l'époque ?
Ah, je sais pas, non. De rassembler le trio de l'époque, non.
Ouais, non.
Pourquoi pas, mais ouais, pourquoi enfin, on pourrait se retrouver par petits bouts, mais ouais. L'écrire, oui, des fois j'y repense.
Ouais.
Et j'aime bien. La suite de La Cité de la Peur, ça serait bien, non? Savoir ce qu'ils sont devenus tous.
Bah, on nous l'avait proposé à l'époque, puis on s'est dit non. À l'époque, on a dit non, le 1 suffit, on ne fait pas de 2.
Ah ouais, c'est vrai.
Parce qu'il faut avoir une bonne idée pour faire un 2, et là c'est le cas, Philippe de Chauron, vous avez une très bonne idée.
Bah, en tout cas, ça renouvelait un peu l'histoire. Ouais. En fait, quand les gens, ils veulent le même film et quelque chose de complètement différent. C'est un peu ça qui est compliqué et bizarre.
Et là, vous avez réussi parfaitement.
Ah ben merci.
Bon, alors Chantal Lobby, votre père était militaire, poète et dépressif. C'est okay. Parce qu'il était poète et militaire qu'il était dépressif ou c'est parce qu'il
non,
était dépressif
je pense que vous êtes... ce métier de militaire ne devait plus lui convenir à une certaine époque. Donc il a fait une petite dépression, même une grosse. Ouais.
Poète militaire, c'est dur. Hein, c'est comme un...
Non,
un
mais il avait... Non. Vous savez, il m'avait raconté La Chèvre de Monsieur Seguin, je me souviens, à tous les enfants de la famille. Et il a inventé la fin. C'est-à-dire que c'était elle qui gagnait. Et j'ai longtemps cru que La Chèvre de Monsieur Seguin était gagnante. Et puis, il y a 5 ou 6 ans, j'entends la fin de l'histoire, la chèvre est morte. J'ai dit, la chèvre est morte. Et ben donc, je trouve que c'est de la poésie, ça. C'est-à-dire dire à ses filles, allez-y, battez-vous, vous gagnerez peut-être.
Soyez sympa, tout le monde, dites-lui rien pour la maman de Bambi.
Non, mais voilà. Non, mais je me suis surprise à être étonnée.
Qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue quand vous les
bonjour.
Il paraît qu'on vous fait beaucoup la blague du whisky.
Oui, ça, la blague du whisky. Ouais, mais là, je suis devenue pendant quelques années, là, depuis quelques années, Madame Verneuil.
Ah oui,
oui, on vous dit.
Ah ben oui, et puis même des petites filles ou des petites jeunes filles de 14-15 ans, c'est ça qui me surprend, qui viennent me parler de Madame Verneuil, du film, de tout ça. Des femmes qui me racontent leur vie en me disant que moi, c'est pareil. Ouais. J'ai deux jantes, c'est la même chose, ça a été terrible avec mes filles, voilà. Donc, je me mets à discuter avec elles comme si on se connaissait, ça j'aime bien, c'est adorable.
Et la blague du whisky, dites ce que c'est cette...
Tu veux un whisky, juste un doigt, tu peux un whisky d'abord, il suffit que je sois dans un bar ou n'importe quoi en train de boire un verre pour que je m'entende cette phrase.
Hein. Elle est excellente,
ou alors
cette vanne,
à la pharmacie, le Tampax sur l'oreille. Chantal, t'as un Tampax sur l'oreille, voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo. Ça, c'est des phrases...
On vous le dit à la pharmacie tout le temps.
Et à la pharmacie, j'ai dû l'entendre 2-3 fois.
Ouais. Franchement. Ah ouais. Et alors, ça vous amuse ou...
Ça m'amuse, évidemment. Je fais les réponses.
Vous trouvez que l'humour a changé ou que la façon de rire a changé par rapport à cette époque-là?
Non, quand un truc est drôle, franchement, on se marre.
Ouais.
Tout le temps, faut arrêter de dire que ça change. Quand c'est marrant, on rigole, puis c'est tout.
Vous voulez un whisky, Chantal?
Juste un doigt.
Un whisky d'abord.
Merci. Vous dites d'ailleurs, Chantal Lobby, que vous aimez les hommes qui vous font rire, mais torturés.
J'aime les deux, moi.
Oui,
j'aime
c'est quoi un homme torturé, c'est-à-dire?
C'est un peu comme moi.
Attaché dans une cave.
C'est-à-dire, on peut faire rire et puis on est un peu torturé, c'est-à-dire qu'à des fois on va chercher un peu des trucs pour se faire
vous
du
faites
mal.
Vous faites quoi après l'émission, Chantal?
Voilà.
Un petit café?
Peut-être pas autant torturé que ça. Hein.
Je t'en dois.
Il va dire oui, lui, hein. Il va faire la fin de la réplique.
Pardon.
Michael Quiroga a des choses à vous dire.
Oui, voilà. Alors, Chantal Lobby, bonjour,
vous
aime. Philippe de Chauvron, bonjour, je vous aime. Non, 12 millions d'entrées, excusez-moi, ça se respecte et ça se faillote. Alors, avec ce qu'on a encore fait au bon Dieu, vos 12 millions de fans, justement, vont pouvoir suivre les nouvelles aventures, ou plutôt les nouvelles mésaventures de Claude et Marie Verneuil. Chantal, vous êtes Marie, en général plus raisonnable que Claude, hein, que joue Christian Clavier. Claude, c'est en fait quelqu'un qui aime la bonne bouffe, le bon vin, les bonnes engueulades, trois éléments qui font partie des prérequis pour embrasser pleinement la culture française. Claude, c'est un inquiet, c'est un nerveux dans le premier film. Il n'était pas très content que les étrangers tournent autour de ses filles. Et ça l'énervait. Dans ce deuxième film, il n'est pas très content que les étrangers veuillent partir dans leur pays d'origine. Je comprends pas, parce que quand il y a des étrangers, il n'est pas content. Quand ils veulent partir, il n'est pas content. En fait, j'ai l'impression que le kiff de Claude, c'est juste de ne pas être content. Quoi, vous voyez. Mais bon, il a fini par s'y faire, hein, notamment grâce à l'amour qu'il porte à ses petits-enfants. Surtout parce que Marie, Chantal Lobby, tient à ce que la famille reste unie. Au fond, ils évoluent. Et c'est tant mieux, parce que moi, je dis vive le mélange, vive le métissage, franchement. Et en plus, bon, on va pas se mentir, le métis, c'est plutôt rassurant, hein. Si, de manière générale. Je veux dire, enfin, à part Guy Georges, le métis est plutôt rassurant. On est d'accord. La preuve, c'est que quand une fille sort avec un noir, la première question que ses parents posent, c'est il est noir comment ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, s'il est métis, la première question qui vient, c'est lequel des deux parents qui est noir ? Comme si ça changeait quelque chose, je veux dire. Non, mais qu'est-ce qu'ils imaginent ? Si c'est ma mère qui est noire, je fais bien le ménage ? Si c'est mon père qui est noir, j'ai un gros sexe ? Non, mais franchement, comment on peut penser des choses pareilles, aussi rétrogrades en 2019. Bon, moi, c'est mon père qui est noir, mais c'est pas le problème. Ça n'est pas le problème, d'accord ? Le problème, ce sont les clichés. Les clichés qui font qu'on pense tous des choses erronées sur les autres, et la plupart du temps, ces mêmes clichés sont contradictoires, d'ailleurs. Je m'explique, hein. Si je prends les clichés sur les noirs, par exemple, puisque, bon, bah, ça me concerne, ils sont contradictoires. Par exemple, on dit souvent que les noirs courent vite, hein, par exemple. On dit aussi, bon, certains disent, d'autres, que les noirs sont fainéants, hein. Et puis, il y en a d'autres qui disent que, bah, ils ont un gros sexe. Bon, bah, déjà, expliquez-moi comment on fait pour courir vite quand on est fainéant. Avec un gros sexe en plus. Le truc qui vous tape sur les cuisses, c'est un coup à vous péter les genoux. Non, non. Et puis renseignement pris, les noirs n'ont un sexe plus long que celui des blancs. Non. C'est un scientifique qui m'a expliqué ça. C'est juste qu'il est implanté plus bas sur l'os pubien. Donc il est juste plus apparent. Voilà, bon, certes, de beaucoup. Mais ce n'est que ça, quoi. C'est-à-dire que Benache, qui est blanc et ici présent, et moi, bah, qui suis noir, eh ben, elle fait la même taille, mon frère. Voilà, bon, sauf que la tienne, elle est à l'intérieur de ton corps. Mais, alors, dans le film... Dans
pas
le film,
énorme non plus.
Dans le film, on dirait canif, le mec. Dans le film, il y a aussi André, le père du personnage de Noum Diawara, qui est le négatif de Claude, hein, je dirais, qui est au moins aussi intolérant que lui, et auquel sa fille chérie, élevée dans des valeurs catholiques les plus strictes, réserve une sacrée surprise. Et c'est aussi un des enseignements du film, c'est que ben, l'intolérance n'a pas de couleur. Et ça, alors, c'est pas une étude sociologique non plus, hein. C'est juste un bon film pour se marrer entre potes ou en famille, mais on n'est pas à l'abri de réfléchir à un truc ou deux quand même. Le premier opus est devenu un film de légende, ne serait-ce que par le box-office et la distribution. Chantal Lobby, légende des nuls, Christian Clavier, légende du Splendide, Mehdi Sadoun, légende des Kaira, Claudia Tagbo, Noum Diawara, Frédéric Chaud, légende du Jamel Comedy Club, l'excellent Harry Habitant, les quatre filles Verneuil, Loïc Legendre dont je parlais tout à l'heure, bref, tout le monde est là. Et cette suite devrait en dérider plus d'un. Verdict dans deux petites heures, mais franchement, je ne suis pas inquiet.
Oh, merci. Alors, Chantal Lobby, j'ai lu votre biographie, il y a des trucs incroyables. Alors, à un moment, vous ne saviez pas où aller, vous étiez à Clermont-Ferrand, vous vouliez partir, vous avez pris une pièce de monnaie, oui. Et vous l'avez...
J'ai dit, face Cannes, pile Paris, c'est tombé sur Cannes.
Et alors, vous êtes
partie. Je suis partie à Cannes. Incroyable. J'étais avec un copain qui faisait un peu de déco, de choses comme ça.
Un peintre, ouais.
Ouais. Il faisait des tableaux.
Torturé, ça allait ?
Ouais, il était bien. Et comme il fallait. Et puis voilà, donc lui, il avait du travail, moi, j'en avais pas. Puis on cherchait une présentatrice à Cannes et à Nice.
Ça a démarré comme ça.
Ça a démarré comme ça. Et après, j'ai rencontré Bruno Carrette. On a fait B3Z, des fausses pubs, mm-hmm. parodies et tout, que Canal a vu. Et
j'adore ça.
Et on a démarré, on a fait les...
Donc si la pièce était tombée sur Paris, la vie aurait été complètement différente.
Je me suis toujours posé cette question. Ouais. C'est pour ça que quand l'humilité, elle vient peut-être de là aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas de plan de carrière.
Vous faisiez des trucs...
Une pièce d'un bal. Voilà ma vie.
Vous faisiez des trucs de dingue parce que vous avez sympathisé avec un orque au Marineland d'Antibes, un dauphin,
oui, aussi,
et vous alliez le chevaucher.
Ah, j'adore.
Et vous n'avez pas vu les images ?
Non, et dès que vous arriviez à côté de lui, l'animal ne voulait plus travailler ?
Non, puis il se mettait sur le ventre, il fallait que je lui passe les pieds sur le ventre, il sortait son zizi. Mais bon, je l'aimais beaucoup, j'allais le voir tous les jours.
Il s'appelait comment ?
Il s'appelait Kim.
Chantal, je vous ai dit que j'avais une piscine ou pas ?
Non, mais j'adorais parce que je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un orque, que j'ai appris à découvrir l'intelligence de cet animal et tout, l'affection et tout. Et puis on m'a dit de ne plus venir le voir parce que ça perturbait son dressage, donc j'en ai voulu. En plus, ils lui ont pris une femelle. Elle s'appelait Betty.
Elle était jalouse.
J'étais jalouse comme un fou. Puis un jour, j'ai appris qu'il était malade et puis que j'ai pris conscience que c'était pas fait pour vivre dans des bassins, ces animaux-là. Ouais. Donc maintenant, je milite beaucoup plus pour qu'ils restent en liberté.
Vous dites aussi, quand vous avez le blues, Chantal Lobby, vous buvez de la soupe de poireaux?
C'est-à-dire que non, c'est pas ça.
Juste un doigt. Faut arrêter.
J'ai pas ces fruits malades.
La soupe de poireaux, c'est
non,
ça qu'il faut.
Je bois du Genepi ou de la Suze, mais du Genepi ou de la Suze, mais des vieux trucs. Mais je veux dire, non, je me souviens d'une série où, pour moi, la soupe m'évoquait mon enfance. Donc je disais quand je faisais cette série, j'étais directrice d'une agence de mode et tout, ça s'appelait Eva Mag. Je voulais, quand elle était dépressive, qu'elle arrive avec un panier de poireaux. Parce que pour moi, ça évoquait la dépression. C'est-à-dire le moment du dimanche soir où on fait la soupe. Vous savez, en famille, personne parle et tout le monde mange la soupe. Et il y avait un côté un peu dépressif là-dedans.
On n'entend que les...
Voilà.
Alors, vous aussi, vous avez un arbre en Auvergne, bien un marronnier sûr. Avec qui vous êtes très amis.
Ah,
vous...
pas qu'en Auvergne. J'en ai un sur les quais, j'en ai un vers chez moi.
Ouais. Vous faites des réunions, des fois ou...
Mais vous trompez pas. C'est-à-dire, je réunis mon arbre au loin, qui est sur les quais, avec l'arbre qui est vers chez moi, et je les fais communiquer ensemble.
Mais vous faites quoi avec cet arbre? Chantal, vous le serrez,
mais bien sûr.
Mais oui.
Vous lui parlez?
C'est bah connu, ça, de
non,
parler.
Non, mais je
armes.
Sais. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. Je sens rien. Mais
il faut prendre un arbre.
Parce que
plus
vous
petit.
Vous dites, je sens. Il faut et que je sente quelque chose. Ça vient tout doucement, tout ça. Puis après, vous communiquez avec eux.
Avec moi, j'adore les arbres.
Et sinon, le psychiatre vous a dit, vous sortiez quand alors, en fait.
Non, je m'en fous. Vous voulez que je vous dise? Je m'en cogne. C'est ma manière de vivre, moi.
Non, mais il y a même besoin. Des scientifiques qui ont prouvé que les arbres, à travers
c'est
leurs racines,
l'arbrothérapie, non, mais ça existe.
Communiquer entre eux.
Ouais. Mais bien sûr. Puis on le sent très bien, un arbre qui vous... Moi, l'arbre chez ma grand-mère, quand il me voit arriver, il fait comme ça. Je le vois, je cours vers lui, je me jette contre lui. Je lui dis, ça faisait longtemps. Ça faisait trop longtemps et tout. Mais je lui parle comme un être humain. Je ressens
vous
des choses.
Vous avez peut-être été un arbre dans une vie antérieure ou un dauphin.
Peut-être.
Ouais, un pommier.
Je sais pas, mais en tout cas, voilà, moi, c'est des choses de la vie que j'aime. Et bon, effectivement, on peut penser que je suis un peu.
Elle aime les arbres. Hein. Pour elle, un magasin de meubles, c'est un cimetière en fait.
Oui, c'est un peu ça. Oui. Ouais.
Léa Landau, des questions à vous poser.
Oui, Chantal Lobby et Philippe de Chauvron. Bah, en arrivant ce matin, la seule phrase que j'ai eue à la bouche, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait de mes questions? Parce que je dois vous en poser, elles avaient toutes disparu. Heureusement, j'ai appelé 4 potes, un juif, un noir, un chinois et un arabe. Et ils m'ont dit, t'inquiète, on va leur poser des questions, nous, à Chantal alias Belle-Maman et à Philippe alias Le Boss. Voici donc les questions de Harry Habitant, Noum Diawara, Frédéric Chou et Mehdi Sadoun pour vous deux. Je commence avec Noum Diawara qui a une question pour vous, Chantal.
Oh là là.
Avec tous ces petits enfants d'origine différente, est-ce qu'elle connaît toutes les fêtes auxquelles elle doit faire des cadeaux aux petits-enfants juifs, aux petits-enfants musulmans et aux petits-enfants bouddhistes?
Non, mais je sais que mes gens me les rappellent à chaque fois. Donc ça va, j'ai pas de soucis là-dessus.
Frédéric Chaud aussi a des questions. Alors la première, je crois que c'est pour Chantal.
Chantal,
oui.
Est-ce qu'on peut se dire maintenant qu'on se connaît un petit peu mieux qu'avoir un gendre comme moi, ça te ferait plaisir?
Mais oui, bien sûr. En plus, t'es super beau. Vraiment du charme. T'es quelqu'un de doux. Ça me ferait plaisir, oui. Vraiment.
Mehdi Sadoun aussi a des questions pour vous.
Est-ce qu'il peut rappeler le moment où, et dans quel film surtout, à quel endroit un chef opérateur a pété un plomb sur moi?
A pété, j'ai eu peur.
Ah oui, alors en fait, c'est sur débarquement immédiat.
Ouais.
Mehdi, bon, il fait beaucoup de conneries, de bêtises, pardon, entre les prises. Et là, il s'est mis à faire le singe hurleur.
Ouais.
C'est une expérience atroce parce que ça
fait mal aux oreilles.
Ça fait très très mal aux oreilles. Et en fait, il a fait près du chef op qui a des problèmes d'acouphènes et qui est devenu fou et qui lui a parlé très très mal. Voilà.
Harry Habitant, aussi une question pour vous deux.
Salut Chantal.
Bonjour.
Chantal, tu sais très bien.
Bonjour Harry.
Je te considère la plus belle belle-mère.
Ben, je te comprends.
Du cinéma français.
Bah oui.
Et aussi, j'aimerais te dire.
Quoi?
J'aime tellement quand tu me chantes Léo Ferré, La Solitude, le monologue du début. Est-ce que tu peux me le refaire, s'il te plaît?
Oh là là, mon Dieu. J'habite un autre pays que le vôtre, un autre quartier, une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que vous façonniez vos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules.
Ouh, c'est beau.
C'était mon idole.
C'était Léo Ferré par Chantal Lobby.
Oui, c'était mon idole.